La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Ben on y vient, on va y arriver à force à la fin de la saison, elle a sifflé cette midinale. Donc de retour dans la midinale de Radio Piquet de ce 6 décembre 2021 pour la deuxième partie. On va commencer avec un sujet sur le lycée, c'est autogéré hein, de Paris, pas autonome de Paris.
Non, c'est autogéré.
Ouais.
Ouais, on va passer un petit extrait d'une émission qu'on a commencé à rediffuser. Alors il y en a une précédente qui était sur la piraterie. Et donc c'est le lycée autogéré, donc c'est des lycéens qui font de la radio. Et qui font de la radio sur Radio Libertaire. Et peut-être que bientôt, ils vont se mettre à dire qu'ils font de la radio aussi sur Radio Piquet.
Puisqu'on les rediffuse maintenant.
Ce sera gentil.
D'ailleurs, on leur diffusera, c'est ce jeudi là qu'on...
C'est jeudi, à l'heure du goûter, c'est-à-dire à partir de 16h30. Alors celle-ci est plus courte que la précédente. Mais voilà, je vous lance un petit extrait pour vous donner un avant-goût.
À toutes et à tous, hola, guten tag, good morning. Non, bah non, pas good morning parce qu'on est l'après-midi. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 FM et vous écoutez Radio Lab, l'émission du lycée autogéré de Paris à l'heure du goûter. Vous êtes peut-être pas au courant qu'une délégation des révolutionnaires zapatistes du Chiapas, de la région du Chiapas au Mexique, sont venus en Europe rencontrer différents collectifs et organisations militantes. Et ce documentaire sonore a donc été enregistré lors d'une rencontre entre la délégation zapatiste et les collectifs des quartiers de la place des Fêtes à Paris. Ce sera tout pour aujourd'hui, à part moi qui fais l'intro et l'outro, pour votre plus grand plaisir à vous, auditeurs et auditrices.
Aujourd'hui, on est à place des Fêtes pour recevoir une délégation de zapatistes. Ça fait plusieurs mois qu'on prépare leur venue, qu'on attend de savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir nous rendre visite. Ça a été compliqué avec le contexte Covid parce que entre les nécessités de vaccins pour voyager, etc., on ne savait pas s'ils allaient pouvoir venir. Mais ça y est, ils sont là. Il y a l'escadron qui s'est présenté à la Parole Errante il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, on reçoit un groupe de 5 ou 6 membres, enfin d'une délégation de 5 ou 6 membres du Voyage pour la Vie. Donc le Voyage pour la Vie, ce sont 150 qui sont répartis à travers toute l'Europe pour rencontrer différents peuples en lutte. Et aujourd'hui, on a cette délégation de 5 ou 6 membres qui viennent rencontrer les habitants de la Place des Fêtes, s'entretenir avec différents collectifs. Et on a hâte de pouvoir échanger avec eux.
La chorale La Café dans le métro, on attend les zapatistes qui vont arriver d'un moment à un autre, accompagnés d'Amparo et de Corinne. On va chanter l'hymne du quartier pour commencer.
Attention,
on y va.
Dans cette ville comme une prison, là où l'argent fait la loi, le balai nous les détruisons, nous n'irons jamais au bas, la vente de la lutte, c'est ici qu'on vit, qu'on lutte, ensemble, ensemble, ensemble.
Bienvenue.
Nous sommes les murs gris qui deviennent des fresques murales. Nous sommes des repas préparés et savourés ensemble. Nous sommes celles et ceux qui organisent des maraudes et des balades sonores. Nous sommes tout ça et bien plus encore. Nous sommes celles et ceux qui rendent nos douleurs moins lourdes, nos solitudes moins solitaires, nos vies moins tristes. Et nous commençons à compter les uns pour les autres. Et tout cela où? Eh bien sur cette place des fêtes que vous voyez ici, qui est située dans le nord-est de Paris, dans le 19e arrondissement. C'est un quartier populaire qui ne baisse pas les bras et continue de combattre l'hydre capitaliste avec ses modestes moyens. Cette hydre capitaliste qui a fait de la place des fêtes ce que vous voyez aujourd'hui, une place qui doit son nom aux fêtes de l'ancienne commune de Belleville, annexée au 19e siècle par Paris.
Mais donc les compas sont plusieurs délégations qui rencontrent dans plein d'endroits de France, d'Italie, de Belgique, etc., qui rencontrent des collectifs, des syndicats, les sans-papiers, les gilets jaunes, etc. Et donc ils ont cette volonté d'écouter les collectifs, les syndicats, etc., d'écouter, de poser des questions, de mieux comprendre comment on organise nos luttes ici et de créer des liens.
Bah, j'espère que ça vous a donné envie d'écouter l'émission complète ce jeudi 16h30 sur Piquet.
Ouais, voilà. Et normalement, on avait voulu le faire et ça n'avait pas pu se faire, mais on devrait les avoir dans la midinale la semaine prochaine.
Ah, c'est cool ça. Voilà. Donc on aura des invités.
Ouais. Des jeunes en plus, c'est bien, qui font de la radio. Trop bien. On passe au sujet suivant.
Ouais, donc on enchaîne. Tu voulais nous causer des EPR chinois?
Ouais, des EPR, et puis plus généralement de la technologie nucléaire, hein, vers laquelle Macron n'a dû que pour elle, pour régler le problème environnemental actuel et la limitation du réchauffement climatique. Comme vous l'avez peut-être appris, depuis quelque temps, il y avait eu un incident sur les EPR de Taishan, qui sont les seuls EPR actuellement en fonctionnement dans le monde, donc en Chine, hein, à Taishan. C'est une centrale qui comporte deux réacteurs et il y avait eu des fuites de gaz qui, au départ, d'après les autorités chinoises, n'étaient pas très graves, c'était rien, on va régler le problème. Mais EDF avait quand même fait un rapport derrière que si c'était arrivé en France, avec les normes qu'on a en France, nous, on aurait arrêté le réacteur.
T'as induit qu'ils n'utilisent pas les mêmes normes nucléaires que nous,
je crois qu'elles sont un peu plus élevées, leurs normes. Et du coup, ça a quand même fait un peu... Voilà, enfin, ça a fait réagir en Chine, parce qu'ils ont quand même mis ce réacteur à l'arrêt à la suite des révélations d'EDF. Mais le problème semble être un peu plus loin. Alors pourquoi il y aurait eu cette fuite de gaz? En fait, c'est venu d'un lanceur d'alerte, tiens, encore un, qui a donné des nouvelles informations sur l'incident qui a conduit à l'arrêt de ce réacteur de Taishan. Donc je suis basé sur un article de reporter.net, donc pareil, on vous mettra les liens. Et en fait, ce lanceur d'alerte révèle que ce serait dû à de graves défauts sur le combustible. Alors, en plus, ce problème pourrait donc se retrouver sur tous les EPR, quoi. Parce que, bon, voilà. Donc l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, a été interpellée. Et donc, qu'est-ce qu'on peut lire dans cet article? Ben, voilà. Donc le lanceur d'alerte, hein, travaille bien sûr dans l'industrie nucléaire, il ne vient pas de nulle part. Et donc il informe que ouais, il y aurait des ruptures des gaines de combustible nucléaire qui sont plongées au cœur du réacteur et que ce serait dû principalement à des vibrations anormales des assemblages du combustible, mais des vibrations qui seraient liées à un défaut de conception de la cuve de la filière EPR. Donc là, c'est là que c'est un peu plus grave, quoi, en fait, parce qu'on a les mêmes cuves chez nous, sur l'EPR qu'on essaye de construire, sur l'EPR qui serait en phase de construction en Finlande, sur ceux qui sont prévus en Angleterre, et potentiellement sur les cuves des 6 prochains réacteurs que Macron veut construire.
Tout en sachant que sur l'EPR de Flamanville, il y a déjà des alertes sur la cuve.
Oui, déjà.
Ils ont déjà des problèmes suite à la réception des cuves. Alors j'avais suivi cet article à une époque, c'était, il me semble que les gens qui fabriquent les cuves, ils n'avaient pas respecté le temps de refroidissement de l'acier.
Ouais, et il y avait des micro-fissures.
De fissures, ouais, voilà. Ouais.
Alors, faut quand même rappeler, parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, s'il faut juste changer la technologie des cuves EPR, ça peut peut-être être réglé rapidement, mais faut quand même savoir, c'est la CRIRAD qui rappelle que la cuve de l'EPR, ça a été inspiré d'un projet de réacteur allemand qui s'appelait Convoy, et sur lequel des défauts avaient déjà été identifiés. C'est dans les années 90 quand même. Et l'EPR était un projet en fait franco-allemand, mais depuis, bah, comme vous le savez, hein, Berlin a abandonné la technologie nucléaire hein, quand ils ont décidé d'en sortir. Donc voilà, nous on a décidé de continuer de fabriquer ces cuves, de baser notre technologie EPR sur ces saloperies de cuves sur lesquelles il y avait déjà des défauts d'identifier. Donc voilà, tout ça pour dire bon, bah, que le démarrage des réacteurs de Flamanville en France ou de Olkiluoto en Finlande, bah, c'est pas pour aujourd'hui. Hein. Et donc, moi je rebondis sur le fait que d'utiliser la technologie nucléaire comme réponse à une production d'énergie décarbonée, mais encore le décarboné, hein, on pourra aller voir le carbone que ça diffuse quand on va creuser les mines d'uranium au Niger, etc. quoi, sans parler des déchets radioactifs derrière. Donc bref, on voit très bien que non. On ne va pas pouvoir construire des EPR rapidement pour éviter le réchauffement climatique. Et pareil, la technologie des mini-centrales, dont vante Macron également. Alors là, il y avait un petit débat entre moi et Pedro dans le studio. Parce que moi, j'avais cru voir quelque part que ces mini-centrales, il y avait des technologies reprises des réacteurs EPR. Même si toi, tu m'as dit que c'était sur de...
Ouais, c'est de... Non, normalement, c'est de... Alors, l'EPR, ils appellent ça les réacteurs de génération 4. Voilà, c'est... Désolé.
Oui, c'est après le Super Phoenix.
Je ne débattrai pas pourquoi, je connais bien ça. les réacteurs de nouvelle génération, les petits, normalement, ce serait basé sur de la génération 3. C'est de l'eau pressurisée classique. Enfin, ils ne veulent pas trop réinventer le... En fait, alors, moi, je connais un petit peu le thème parce que j'ai lu quelques articles là-dessus assez intéressants. Dont je vous encourage un à lire sur, je retrouverai le journal chez moi, qui était dans Science et Vie, qui avait fait un super article sur les mini-réacteurs et la fusion nucléaire. Et justement, ils interrogeaient un mec de l'autorité de sûreté nucléaire qui disait « Oui, alors les mini-réacteurs, c'est super, sauf que comme c'est petit, on ne peut rien maintenir. » Voilà.
Donc, c'est sympa.
C'était pas mal.
Et là, j'imagine qu'il y a des cuves, malgré que ce soit de l'eau pressurisée, comme tu dis, mais il y a des cuves. Et c'est peut-être ces cuves-là qui sont basées sur la technologie EPR, en plus petit, mais qui pourraient potentiellement avoir les mêmes problèmes. Bon, ça, c'est à vérifier. C'est on n'est pas d'accord là sur ce sujet. Frère, croise nos sources.
Si tu veux, je pense que les mini-réacteurs, technologiquement, ça se rapprocherait un peu de ce qu'ils embarquent sur le Charles de Gaulle
ou sur les sous-marins nucléaires. Ouais.
C'est des mini-réacteurs, quoi. Mais voilà. Bon, le plus dangereux dans tout ça, c'est pas ça, c'est que finalement, comme c'est des mini-réacteurs, ils te vendent en plus que c'est facile à implanter. Hein. Donc en gros, ils te diraient, bon, y a une ville de 300 000 habitants qui a besoin d'électricité. Bon,
on va t'en coller un
en plein milieu, c'est bien.
Ouais, mais j'ai cru voir aussi que c'était plus facile à refroidir, qu'ils disaient, ah ouais, si on prévoit des bassines d'eau, enfin des assez grandes, en fait, même en cas de problème, il n'y a rien à faire, tout serait confiné, il n'y a aucun souci. Bon,
alors, de toute façon, il n'y a pas de problème dans le nucléaire.
Il n'y a pas de problème. Et puis, il faut quand même savoir aussi un truc. Là, on parlait de la réponse production énergétique pour limiter le réchauffement climatique. Donc, on voit bien là, les EPR, c'est foutu. Hein, c'est pas pour aujourd'hui, puis ce sera peut-être jamais. Et ces mini-centrales, c'est en projet. C'est la technologie ne sera pas disponible avant 2035. Ça veut dire qu'on ne commencera pas à en construire avant 2035. Alors après, je ne sais pas combien de temps il va falloir pour en construire, mais ça veut dire qu'en gros... on n'est pas capable de produire de l'énergie électrique avec ce bordel-là, ça se trouve, avant 2040. Quoi. Donc on ne répond pas aux besoins urgents de décarboner ou de...
Non, bah en gros, on répond à un lobby. Quoi.
Voilà, mais en gros, bon, il va être temps de se dire que en fait, la technologie nucléaire n'est pas une réponse, que ça arrive trop tard et qu'il y a peut-être des milliards à mettre ailleurs dans des technologies qui peuvent être mises en place beaucoup plus rapidement, quoi, je pense, et plus vertes.
Ouais, les hydroliennes, par exemple.
Par exemple.
Que EDF a abandonné. Ouais. Voilà, puisque ça marchait trop bien.
Bah oui. Mais bon, bref.
Voilà.
Donc voilà pour le sujet nucléaire du jour et ces super centrales EPR. affaire à suivre, mais je pense que ça se trouve, on va pas trop en entendre parler d'ici quelques temps, je sais pas.
Le problème, c'est que, de ce que j'ai compris, actuellement, que ce soit Macron ou la gauche ou la droite, dans leur programme, ils mettent des centrales nucléaires, donc...
On en reparlera, parce que quand on en parlait avec les voitures électriques qui se développent, il y a un moment, ils vont se rendre compte qu'on les a pas, les centrales nucléaires, donc on va pas pouvoir produire assez d'électricité, donc ils vont être de façon... obligés de trouver d'autres solutions d'ici là s'ils veulent continuer à alimenter les bagnoles, quoi. Donc,
Et en fait, pourquoi aussi, alors, moi tiens, je rebondis un peu sur le sujet nucléaire, pourquoi ils parlent du nucléaire aussi en ce moment? C'est parce que il y a la nouvelle RT là, qui va, donc la réglementation thermique, voilà, qui va s'appliquer pour toutes les maisons neuves là. Donc c'est la RT 2022 si mes souvenirs sont bons, et que je vérifierai, que je raconte pas trop de conneries, mais normalement c'est à 2022, et celle-là, elle a été pilotée par EDF, donc un gros lobby aux manettes, et on réhabilite le chauffage électrique dans la RT 2022.
Ah bien, donc, les grippins.
Donc on vire tout ce qui est énergie du gaz, donc les chaudières au gaz vont être bannies du neuf, les chaudières, les pompes à chaleur, on commence à taper dessus aussi, et on te dit, bah, faut remettre de l'électrique partout. Et pourquoi faut remettre de l'électrique partout? Parce que comme ça, ça fait consommer les gens, et comme ça, EDF peut vendre des réacteurs.
Voilà. Bon, bah, ils vont essayer, quoi. Voilà. Parce qu'ils vendent des trucs qu'ils n'arrivent pas à construire. Et le seul qui a été construit, on voit ce que ça donne.
C'est ça.
Bon, ce sera peut-être le prochain accident nucléaire grave à Taïchin, en Chine, à suivre. On n'espère pas, quand même. Mais bon. On passe à un autre sujet environnemental. Qui est aussi environnemental, qui est économique, qui est un peu tout, quoi. Dans le Finistère, là, il y a un nouvel entrepôt d'Amazon. Oui, c'est bien d'Amazon qu'on va parler. Un nouvel entrepôt dit du dernier kilomètre, c'est-à-dire que c'est le dernier entrepôt de distribution qui gère en gros la livraison des colis Amazon 100 km autour. Donc ils essayent, enfin ils sont en train de commencer, enfin ils ont commencé à construire ça à Briec. Voilà, pour y être allé voir ce qui s'y passait, il y avait une manifestation ce samedi sur Briec d'organiser. Il y a eu pas mal d'organisations, de collectifs représentés. Et ben, j'ai vu le terrain, qui était des terres agricoles avant, c'est déjà bien dégueu ce qu'ils ont fait, quoi, pour implanter leur saloperie d'entrepôt. Et ça, c'est des petits entrepôts. Pourquoi, en fait, ils ont pu. Parce qu'Amazon a une. Il faut savoir que pour monter leurs entrepôts, ils ont décidé de doubler leurs entrepôts d'ici 2021 ou 2022, je crois, en France. Il y a normalement des études d'impact écologique, mais ces études sont faites qu'à partir d'une certaine taille du projet. Et ces entrepôts dits du dernier kilomètre, qui en fait couvrent les derniers 100 km, ne rentrent pas dans ces normes, quoi. Sont trop petits. Donc, par exemple, à Briec, ce projet, il est arrivé en mentant totalement à la population. C'est-à-dire qu'ils ont su très tardivement que le projet qui était en cours sur ces terres agricoles, c'était pour monter un entrepôt Amazon. Et donc, enfin, de toute façon, vu la taille de cet entrepôt, ça rentre pas, ça ne permet pas de faire une étude écologique, enfin d'impact écologique avant. Par contre, on voit, comme dans le Gard, où là c'était un méga entrepôt, qui est le projet, et ben dans le Gard, Amazon a une victoire, a été obligé d'abandonner son entrepôt géant. Et pas, enfin, parce qu'il y a eu cette étude de l'impact écologique. Et à cause de quoi ils ont dû arrêter? Et c'est là qu'on va rebondir sur Piquet, parce que on va vous montrer que c'est pas parce qu'on est tout petit qu'on peut pas empêcher des gros projets capitalistes, enfin, hallucinants de monter. Et ben à cause de la pigrièche. Eh oui, la petite pigrièche qui vivait sur les terres où Amazon voulait mettre son gros entrepôt. Et ben en fait, non, on n'a pas le droit de détruire. L'habitacle de la pigrièche, donc on va lui foutre la paix et Amazon dégage et va voir ailleurs, quoi. Voilà, donc vous pouvez retrouver un article qui parle de cet échec d'Amazon sur le site que j'ai trouvé, c'était La Relève et la Peste, j'aime bien le nom de ce site. Donc voilà, je ne vous lirai pas l'article, hein, je pense que tout est dit, hein, en gros, bah, Amazon y dégage, mais...
38 000 mètres carrés, comme
ça. 38 000 mètres carrés, imaginez. 38 000 mètres carrés. Ça fait combien d'hectares, ça?
38.
À peu près 40. Ouais, 38 hectares, ouais. L'équivalent de 76 terrains de foot. Là, ça vous parle un peu plus, là. Ouais, des fois, c'est dur, hein, les hectares, les mille mètres carrés, tout ça. Un entrepôt comme ça, c'est un afflux de 1000 poids lourds et 4000 utilitaires par jour. Alors, sur Briec, là, l'entrepôt du dernier kilomètre, c'est un peu moins, mais c'était quand même au moins 500 camions, je crois, par jour, enfin, livreurs. Bon, sans parler, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Amazon, ce n'est pas que ces entrepôts, c'est tout le système que ça présente. C'est-à-dire qu'en plus, les poids lourds et les utilitaires, qu'ils utilisent pour livrer, ça ne passe pas par la poste. C'est des livreurs privés qui vont embaucher des camionneurs, des gens avec des contrats bien précaires où ils n'ont pas le temps de se reposer, faut livrer toujours plus vite. Donc non seulement c'est des poids lourds et des utilitaires en masse, mais en plus ça risque de les pousser à bout, il risque d'y avoir des accidents, sans parler de la pollution en plus. Et puis ça, y a un truc con quoi, pendant ce temps-là la poste il livre plus. Ça attaque aussi les services de la poste, quoi. Et c'est de là, après, qu'on voit qu'il y a encore des suppressions de postes chez la poste, parce qu'il y a moins besoin de livreurs. Enfin bref, Amazon, c'est tout un modèle économique et de société qui est bien dégueulasse, quoi, faut le dire. Donc je pense que c'est important de continuer à lutter contre Amazon, de soutenir plutôt les commerçants locaux, et puis d'arrêter de détruire la nature pour des projets hallucinants comme ça. C'est n'importe quoi, quoi. Si vous entendez que oui, mais Amazon, ça crée de l'emploi. Non, Amazon, alors oui, ça crée peut-être un peu d'emploi dans leurs entrepôts, mais il faut savoir qu'en France, actuellement, où ils en sont, quand Amazon crée un emploi, c'est en moyenne 2,2 emplois supprimés en France. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être à la poste, ça peut être dans plein d'autres domaines, des petits commerces qui sont un jour amenés à fermer, quoi. Et pour aller un peu plus loin, Amazon, où ils sont beaucoup plus implantés, que ce soit aux États-Unis et en Angleterre, pour un emploi créé, c'est de 4 à 5 emplois détruits. Voilà, donc ça, c'est le modèle économique Amazon. Donc, en dehors aussi de la destruction environnementale, ça détruit aussi les emplois, quoi. Donc voilà, une lutte qu'il faut suivre, qu'il faut porter, je pense. Et donc, par exemple, à Briec, il y a ce petit entrepôt qui est en construction. Voir comment l'empêcher, sachant qu'il n'y a pas eu d'études environnementales, c'est compliqué. Par contre, on est au courant qu'Amazon, sur le territoire breton, a comme projet de monter un de ces méga entrepôts là, de 40 hectares environ. Et ce sera le même problème. Là, il y aura une étude environnementale qui sera menée, probablement. Mais ça, c'est si on arrive à savoir à quel moment et où ils veulent le faire. Parce que, là, comme je vous l'ai dit, hein, la tactique d'Amazon et de ces grosses multinationales, c'est d'avancer à visage masqué pour essayer d'étendre son empire, quoi. Hein, c'est que l'information du lieu où sera monté les entrepôts, où seront montés les entrepôts, on l'a trop tard, quoi. Donc ils passent par des sociétés privées, enfin des prête-noms, des machins, et on les voit arriver quand c'est trop tard, quoi. Mais bon, on voit que la lutte est possible, on peut faire abandonner ces projets, donc restez à l'écoute, informez-vous, informez-nous, on passera les infos pour tous ceux qui auraient une information de « tiens, attention, un impôt ». Non, déjà, les impôts, ils les payent pas.
Ils payent pas d'impôts.
Ouais. Un entrepôt arrive de plus, quoi. Voilà, voilà. Mais merci, la pigrièche méridionale.
Grâce à elle, un entrepôt de moins.
Voilà. Et la pigrièche, pourquoi on en rigole? Parce que c'est le symbole, c'est notre mascotte chez Radio Piquet.
C'est voyez ça.
On avait bien trouvé, on a eu le nez creux, quoi.
Ouais, pas mal.
Bon, voilà pour cette lutte Amazon. D'ailleurs, au passage, j'informe nos auditeurs et nos auditrices qu'un collectif Stop Amazon sur Brest va se constituer. Ce sera mardi soir. Je sais que mardi soir, il y a plein de choses. Mais mardi soir à 19h, dans les locaux de la radio qu'on prête gracieusement, hein, tout collectif, asso et les locaux du clash de passage. Il y aura une réunion pour constituer ce collectif et mettre en place la lutte localement contre Amazon, de différents moyens, quoi, comment on peut faire. Voilà.
Merci Seb.
De rien.
Et puis on fait une petite pause muse.
Ouais, c'est sympa les pauses muses.
Ouais, c'est bien aussi.
Qu'est-ce que tu nous as prévu?
Qu'est-ce qu'on écoute de beau?
Ah c'est toi qui as prévu, Pedro. Il y a un truc qui s'appelle Trois fromages, là, Bobo à la playa, si j'ai bien compris.
C'est ça.
Et après, c'est Réalité de Grand Soleil.
À tout à l'heure.
Du matin, bien trop tôt pour se lever. Y'a des travaux chez le voisin. Oh non, ma tenture vient de tomber.
Mon pote Gizmo me l'a ramené. Il sait que j'adore Che Guevara. Il me dit que ça vient du Tibet. L'étiquette dit Made in China.
Et moi, depuis mon loft à Saint-Tropez, j'observe avec recul les problèmes de l'humanité. Je rêve d'ailleurs. Le prix du tabac roulé. Je t'emmènerai voir la mer, même si elle est polluée. On dormira sur la plage, on nettoiera les rochers. On dormira sur la plage, on nettoiera les rochers.
Du matin, bien trop tôt pour se laver. Au pire, je le ferai demain. Oh non, mon Sarouel n'est pas repassé.
Mon pote Riquet me l'a ramené d'un festival à Buenos Aires, soi-disant chanvre recyclée. L'étiquette dit polyester.
Mais moi, depuis mon jacuzzi privé, j'observe avec tristesse les abus de la société. Je rêve d'ailleurs. Chômage, le prix du tabac roulé. Je t'emmènerai voir la mer, même si elle est polluée. On dormira sur la plage, on nettoiera les rochers.
Vamos a la playa, yo no soy marinero.
A mí me gusta la guitarra. Clandestino de mi corazón. Libertad de pensamiento. Léonel parle pas espagnol.
Et moi, depuis ma bioca préférée, j'observe avec les larmes aux yeux le total à payer. Je rêve d'ailleurs. Papara, papara.
We'll be right back. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel?